coûte que coûte, monter ce stratagème qui est un stratagème triste, débilitant, enfin démoralisant, mais il faut le faire. Et lorsqu'il a accompli sa mission, eh bien, il n'a plus qu'à se retirer dans une île, et c'est l'île du Triomphe de l'amour de Marivaux. Et en quelque sorte, Hermocrates, c'est Don Alfonso après.
C'est une vision d'un pessimisme.
Oui, tout à fait.
Terrible.
Oui, tout à fait. Non, mais enfin, c'est une vision très cohérente. Elle n'est certainement pas la seule.
Complètement cohérente.
Alors, elle n'est certainement pas la seule qu'on puisse défendre.
Oui, voilà.
Je ne rappelle.
C'est là-dessus que j'insiste. Alors, il faut qu'il y ait vraiment une polyvalence essentielle.
Ça veut dire qu'il faut transformer le rire, qui est le thème de Don Alfonso du début à la fin. Et je vous rappelle qu'à la fin, il dit j'ai déjà ri et je rirai encore. Il faut le transformer en ricanement. C'est le hideux sourire de Voltaire. Donc, je crains que ce soit une thèse du ressentiment. Par rapport à quelque alors, chose de tout simplement.
Voyons comment Philippe Soler se porte le sourire suédois et le rire d'Arnold Eussmann. Alors, le même passage que nous commencerons pour des raisons de repérage discompact sur l'aria d'Alfonso, donc vorrei dire. Alors, Alfonso, c'est Carlos Feller. Je rappelle que Fiordaligi, c'est Rachel Yacar, qui est avec nous aujourd'hui. Dorabella, Alicia Naffé. Ferrando, Gustav Imberg. Et Guglielmo, Tom Krause.
Barbaro fato, vorrei dire corrono e corrono, balbettando il labbro va, fuor la voce si rompo, ma mi resta pezza qua. Che farete, che farò, oh che gran fatalità, dar di peggio non si può, non si può. Oh, di voi, di lor pietà, oh, di voi, di lor pietà, oh, di voi, di lor pietà, di voi pietà, di lor pietà.
Stelle, per carità, signor Alfonso, non ci fate morire.
Conviene armarvi, figlie mie di Costanza. Morti non son, ma poco men che morti. No,
ammalati,
neppur.
Che cosa dunque?
Al marzial campo ordin regio li chiama.
Oimè, che sento? E partirà.
Sul fatto.
Non
ve.
Non più un son addio.
Gli infelici non hanno coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate, son pronti. Amici, entrate! Sento io che questo piede per estio nel gir le avante
il mio labbro palpitante non vuole
nei momenti più terribili sua virtù l'eroe palesa.
Thank you. bene. Saldo amico, saldo amico, finem lauda, finem lauda.
Cagion di quel pianto.
Chissà se mio divento, chissà se mio rumore, lasciami questo ferro, e mi riammonte se mai barbara sorte, in quel seno a me corro, e lo lanciarò.
Non farmi, anima mia, questi infausti presagi, proteggeranli la pace nel tuo cor, nei giorni miei.
E tutti due fan bella loro parte.
O cielo, questo tamburo funesto, che ad infine mi viene dal mio tesoro.
Ecco, amici, la barca!
Thank you. tempo amici andar conviene ove il destino anzi dove.
Voilà qui prouve au moins que les militaires défilent très vite.
Oh non, mais c'est complètement bien. Non, moi, je trouve qu'il y a justement la synthèse du théâtre et de la musique complètement réussie.
Voilà, on est vraiment dans une version.
Ça, vraiment, c'est complètement.
Autant j'étais inquiet après l'ouverture.
Oui, vous lui pardonnez son ouverture.
Voilà.
Et Philippe, si.
Ah, c'est pas cohérent,
là. Non, mais je trouve que là, je sais pas, il a trouvé le ton de la voix. Sans la voix, il est peut-être moins sûr de lui. Mais là, avec la voix, alors c'est tout à fait évident. Les chanteurs sont merveilleux. Alfonso est tout à fait bien. Oui, et Fior di Ligi est au-delà de l'éloge.
Rachel Yacquard. Rachel Yacquard vient de.
Ce que je trouve étonnant, pour la première fois, on entend enfin oui. des récitatifs qui sont des récitatifs.
Voilà.
On entend aussi l'intervention, il y a un violoncelle donc, qui accompagne, qui est avec le clavecin,
oui.
qui permet d'alléger considérablement.
C'est très heureux, là, un plat thermique.
Ça fait avancer le récitatif. Et ce récitatif qui est extrêmement important, là, pour une fois, évidemment, on ne peut pas s'ennuyer quand on écoute un texte mené de cette manière. C'est impossible.
Rachel Yacquard.
Je voudrais ajouter que Arnold Oestmann avait absolument tenu à ce que nous fassions des représentations ensemble. Nous avons fait 4 représentations sur scène avant de faire l'enregistrement.
Avec le public, alors.
Avec le public, bien sûr. Ce qui a permis peut-être d'avoir une idée beaucoup plus vivante et plus précise des situations dans lesquelles on se trouvait au moment de l'enregistrement.
Vous avez senti le public dans ces représentations.
Bah, oui.
Ce qui est paradoxal, c'est que Walter Legg faisait faire ça aussi à Karajan, Schwarzkopf, Merriman, etc., ce qui n'empêche pas Karajan d'avoir une vision fort différente.
Oui.
Évidemment,
oui.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a entendu aussi des musiques qu'on a jusque-là pas entendu dans les versions précédentes.
Oui, il y a le duo.
Alors on a donné
Ferrando et Guglielmo.
En effet, nous avons une partition là qui provient de la maison de la radio. On voit que hardiment, clac, clac sur Mozart.
On coupe beaucoup. Cosi et l'ouvrage
coupons. Mais dans les enregistrements, ça ne se justifie pas. D'autant plus qu'il y a à un moment donné, il y a un récitatif à deux, à Doué, qui est une parodie de probablement de récitatif d'opéra seria, car on trouvera, enfin on le dira peut-être, qu'il y a dans cet opéra non seulement une critique fondamentale, donc dont parlait Philippe Solers, de tout un système, mais il y a la critique aussi musicale, évidemment, de ce même système au travers de la musique.
Dominique Jameul, est-ce que vous êtes convaincu?
Non, je sens qu'il y aura qu'on monte au feu, mais les forces là des opposants à cette version ont singulièrement diminué, si j'ai bien compris, au niveau du rapport des forces. Alors, simplement, moi je voudrais d'abord redire une première chose, c'est qu'effectivement, je trouve techniquement cette version, au niveau de la perfection de jeu et de chant, effectivement, tout à fait remarquable. Et ce n'est pas parce que Mme Rachel Yacquard est là que je le dis. Le rôle de Fior di Ligi, notamment, est chanté avec une précision tout à fait hallucinante que l'on n'a pas toujours dans beaucoup d'autres versions qui sont par ailleurs pleines de mérite. Alors, cela dit... Alors, premièrement, une observation. On m'a annoncé une version jouée sur un instrument ancien et je ne suis pas extrêmement fanatique de ce genre de reconstitution, mais je me suis dit, ça va être quand même intéressant pour la couleur d'entendre l'orchestre de Cosi jouer de cette façon-là, enfin, sur ces instruments-là. Or, je constate que, sans doute par des choix d'enregistrement qui ont été faits, peut-être même, j'ose l'espérer, sans que le personnel artistique en ait été complètement averti ni convaincu, nous entendons très peu l'orchestre. Nous entendons les voix, ça, alors là, vraiment formidablement. L'orchestre est continuellement à l'arrière-plan et on ne sent pas du tout ce que l'on sentait dans l'enregistrement, notamment Karajan, mais Rosbaud également, on ne sent pas le chef d'orchestre qui tient ses chanteurs juste au-dessus de lui, qui les suit, qui les appuie, qui les souligne, qui joue avec eux. Il y a là un ensemble instrumental qui, sans doute d'ailleurs, je ne me prononcerai pas sur le fond du problème des instruments anciens dans ces versions-là, mais qui est sans doute au niveau de sa réalisation instrumentale tout à fait impeccable et que l'on entend fort peu, sauf naturellement lorsqu'il est à découvert. Deuxièmement, ce qui concerne les récitatifs et l'extrait que l'on a entendu dans cette version, qui effectivement fait partie de la partition et que l'on couvre habituellement, c'est tant mieux qu'on l'entende. Plus on entendra Mozart, mieux ça vaudra. Mais c'est vrai que quand même, les passages que l'on coupe habituellement ne sont pas, à mon avis, à mon très, très humble avis, de la même beauté que ce qui l'entoure. Cela dit, c'est une raison peut-être pour les couper, mais je veux dire, ce n'est pas vraiment, il me semble, un péché mortel que de couper ce que l'on coupe d'habitude.
Vous avez toujours travaillé sur Gustave Mahler avec André Louis de la
Deuxième.
Alors, pardonnez-moi, peut-être qu'on entend un peu moins 30 ou 40 musiciens que 70.
Bon. Troisièmement, je sursaute quand j'entends, je ne sais plus qui, il y a quelques instants, je crois que c'est bien que c'était Jacques Merlet, déclarait qu'au moins, on ne s'ennuie pas dans les récitatifs. Parce que quand même, effectivement, on l'a suffisamment dit que les récitatifs de Mozart sont merveilleux. Si vraiment Jacques Merlet s'ennuie habituellement dans les récitatifs mozartiens, c'est que malheureusement, il en fait de très mauvaises
versions. Je ne m'ennuie pas dans les récitatifs mozartiens, mais la manière dont on les fait, vraiment, et dont ils sont faits, et souvent très, 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 très
et parfois,
ennuyeuse
pas souvent.
Et ratée.
Alors, la dernière chose que je voulais dire, et puis j'arrête là-dessus, moi, je trouve effectivement que c'est une version sans respiration, qui est continuellement haletante, continuellement fébrile, continuellement précipitée, qui, simplement, effectivement, je ne reconnais pas la phrase mozartienne. Bon, peut-être qu'on peut y en avoir plusieurs exceptions possibles, mais je trouve que c'est une version fébrile.
Il y a plusieurs choses à dire pour un petit peu affiner ça. Parce que maintenant nous entrons dans cet enregistrement avec les voix.
S'il n'en reste
que
deux, il y a
plusieurs, logiques qui entrent. La logique du récitatif me semble assez bonne, effectivement. On articule, on entend les mots, on comprend ce qui est dit et on se rapproche là d'une certaine normalité. En revanche, dans l'ensemble et dans le quintet, c'est particulièrement frappant. Le tempo, je m'excuse, c'est n'importe quoi. C'est comme une sorte de soufflet qui monte et qui descend avec une très grande approximation d'attaque et de précision quand un accord d'orchestre doit tomber en même temps qu'un qui, mettons, qui est prononcé par les cinq chanteurs exactement en même temps. Tout ça flageole. Et j'en admire d'autant plus les chanteurs et d'autant plus Mme Yacquard de regarder leur qualité d'articulation alors que tout ça est comme une photo floue. Si vous écoutez partition en main avec l'orchestre, c'est vraiment très frappant ce que je dis. Je ne crois pas que vous puissiez me contredire sur ce point-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que je ne pense pas que monsieur, dont j'ai oublié le nom, monsieur Hussmann soit un grand chef mozartien. Voilà.
Il est évident que la musicologie n'est absolument pas d'accord sur ce qu'était le récitatif à l'époque de Mozart en ce qui concerne la façon de le chanter. Car la solution adoptée ici, je ne sais pas, moi je ne prends pas parti, la solution adoptée ici est exactement le contraire de la solution adoptée par exemple par Arnoncourt dans le Idoménée. Arnoncourt adopte, avec de nombreuses explications d'ailleurs dans le livret, un récitatif qui est beaucoup plus près du Sprechgesang. Et ici, c'est un récitatif qui est au contraire beaucoup plus chanté. Les récitatifs sont tuilés, si vous voulez, dans les airs. N'est-ce pas ? Manifestement, il y a une différence absolue. Je ne sais pas qui a raison, ça m'est égal. J'ai été assez convaincu parce que je viens d'entendre. Certainement, vous avez raison en ce qui concerne le peu de rigueur, peut-être. Mais je crois que aussi, enfin, on l'a beaucoup dit, n'est-ce pas ? Mais laissez-moi finir mes phrases.
Vous avez l'un des chanteurs qui peut vous dire. Comment ça s'est... Il y avait tel parti pris.
Finissez d'avoir votre fruit.
Oui, donc voilà. Je disais simplement que je pense que la rigueur à l'époque, n'est-ce pas, enfin la rigueur au sens où nous l'entendons aujourd'hui, était considérée d'une façon beaucoup moins précise, c'est sûr. Encore une fois, je ne prends pas parti. J'ai
différent.
Été convaincu par les
deux choses. Je sais bien à quel point il est difficile, bien entendu, de parler des chefs d'orchestre avec qui vous travaillez, mais on pourrait peut-être répondre aux opposants à cette version sur un plan purement technique. Ils parlent tous d'un certain flou dans la direction, de changement de tempi permanent, et ils pensent que les chanteurs doivent s'arranger avec ça. Alors,
non, moi, je peux vous dire que ça a été extrêmement précis. Moi, je suis arrivée avec une version en tête, parce que je ne l'avais jamais chantée, c'était la première fois que je le chantais. Je suis arrivée avec une version très classique de la chose, donc il a fallu que je me plie aussi au désir de M. Hussmann. Au début, ça a peut-être été un petit peu difficile pour moi, mais en définitive, j'ai trouvé ça extrêmement logique dans l'esprit de ce que voulait le metteur en scène, dans l'esprit de ce que voulait Hussmann. Puis, ma foi, pourquoi pas, il faut marcher, autrement, il ne faut pas le faire.
Bien sûr, s'il y a un flou, il est dans le décalage qu'on peut avoir
vis-à-vis de versions dites de référence ou de révérence.
Finalement. Non, il est tout simplement dans la
probablement,
de l'orchestre.
Et probablement, finalement, ce que l'on entend, qui est justement, qui va du côté, et ça, ce que j'aime dans Eastman, c'est qu'il va du côté, je dirais, de la vie, de la création, de l'improvisation. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus sur le coup.
De même qu'il y a une musicalité des interprètes, il y a une musicalité d'un chef d'orchestre.
Et bien sûr.
Donc, ça, il doit être jugé, non pas simplement, il n'est pas là pour simplement donner le tempo, etc. Il peut faire. Mais il y a une musicalité, et là, je crois qu'il. Oui, sa musicalité n'est pas flagrante.
Peter Watson, si vous l'entendez là sur votre production d'Oiseau Lire, vous l'avez déjà entendu?
Qu'est-ce qui, je trouve très intéressant, c'est. J'étais un peu préparé que les gens soient. Contre comme ça.
Mais là, ils sont pour.
Vraiment, on est tout à fait habitué à.
Là, vous avez une majorité pour vous. Là, vous avez une majorité pour vous.
On a
non, parce qu'on dit que les chanteurs sont très bons, mais il n'y a pas de musicalité. On dit que.
Oui, écoutez.
C'est très, très beau à écouter, mais finalement, c'est flou.
Je peux finir, enfin. Qu'est-ce que je voulais bien dire, c'est que tous les chanteurs, presque tous les chanteurs, n'avaient jamais chanté avec M. Eastman avant. Et il faut dire tout à fait qu'à la fin, ils sont tous venus chez moi et dire, écoute, si on peut travailler avec lui de nouveau, ça ferait beaucoup de plaisir, parce qu'on a eu exactement. Beaucoup de plaisir avec lui, on a trouvé si musical. Alicia Nafé est venue même chez moi pour dire, je voudrais bien qu'il joue le piano avec moi, parce que je trouve ça un musicien fantastique. Et la même chose avec l'orchestre.
Je propose que maintenant, on entende Fiordaligi, et j'ai choisi deux airs. L'air où elle se vante au début, où elle se présente, et l'air où elle cède, ce qui permettra à Solaire certainement de dire des choses importantes sur l'âme féminine. Alors, l'air où elle se vante tout d'abord, c'est bien sûr l'air du début comme Escolio. Alors, je rappelle que Alfonso vient d'introduire les deux hommes déguisés qui déjà déclarent leur flamme, effectivement. Et Fiordaligi chante sa volonté absolument inébranlable, bien sûr, de rester fidèle comme un roc, comme un scolio, comme un roc demeure immobile contre les vents et la tempête. Ainsi, pour toujours, cette âme est forte dans sa fidélité et son amour. Et c'était effectivement un air assez solennel, superbe, qui paraît tout à fait sortir d'un opéra seria. Enfin, je crois qu'on en reparlera de tout ça dans un moment. Alors, voici ce passage. Karajan, en 1955, dirigeait Elisabeth Schwarzkopf.
O ciel, mirate, uomini in casa nostra!
Che male c'è?
Che male in questo giorno, dopo il caso funesto!
Stelle, sogno, o son desto, amici miei, miei dolcissimi amici, voi qui, come, perché, quando, in qual modo, lui, quanto ne godo,
secondatemi, amico d'Alfonso,
amico caro. Oh, bella improvvisata!
Li conoscete voi?
Oh, se li conosco! Questi sono i più dolci amici ch'io m'abbia in questo mondo, e i vostri ancor saranno.
E in casa mia che fanno?
Ai vostri piedi, due rei, due delinquenti, ecco, madame, amor.
Numi, che sento?
Amor, il lume si possente per voi qui ci conduce.
Vista appena la luce di vostre fulgidissime
e alle vive faville,
farfallette amorose agonizzanti,
vi vogliamo davanti,
e dai lati e dal retro,
per implorare.
Nostri affetti, in vano
no!